Je suis Marie-Pierre Deschaines. Avec le podcast Souveraine, je t'invite, femme courageuse en quête de liberté, de simplicité et d'harmonie, vers la reprise de ton pouvoir sexuel et menstruel. Envisageons ensemble une société nourrie par les connexions humaines qui accueille la beauté de la simplicité en harmonie avec notre nature cyclée. Une société qui prend action pour respecter tous les êtres vivants et la planète. Faisons partie de la solution. Soyons des alliés au changement vers la circulation du savoir, de la richesse et de l'abondance de façon équitable et engagée. Nous sommes souveraines. Notre pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Bienvenue dans notre communauté.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très, très heureuse qu'on se retrouve cette semaine pour une nouvelle entrevue sur le podcast Souveraine. Cette semaine, je parle avec Marie-Gilles Pelletier, qui est une naturopathe, et on aborde un sujet que vous m'avez longuement demandé, donc je suis très, très heureuse qu'on en parle dans cette entrevue-là, et c'est le syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK. Marie-Gilles va nous parler de l'équilibre et de l'harmonie des hormones chez les femmes. Elle va aussi nous dire de façon hyper simple et claire c'est quoi le SOPK et quels sont ses impacts sur notre santé. Et on a terminé cette discussion avec des habitudes de vie à intégrer pour justement diminuer les symptômes du SOPK. Donc, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je vous invite à le partager aux personnes près de vous qui en auraient besoin. Ça me fait toujours, toujours plaisir quand de nouvelles personnes me disent que le podcast leur a été partagé avec des gens de leur entourage. Et si ça vous dit, vous pouvez aussi partager dans la story en nous taguant. Donc, moi, je suis @Marie-Pierre Deschaines avec la petite barre juste en dessous. Et vous pouvez aussi trouver Marie-Gilles sur son compte. Et donc, sur ce, je vous laisse à l'entrevue. Salut! J'espère que tu vas bien aujourd'hui.
Bonjour Marie-Pierre, oui, ça va super bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée à ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi.
Ben écoute, je suis vraiment très, très, très contente que tu m'aies dit oui, tu sais, puis ça fait déjà quelques mois qu'on se parle puis qu'on essaie de trouver une date, mais tu sais, c'est ça, la vie est un peu ce qu'elle est, puis donc c'est ça. Donc là, on prend le temps de le faire, puis je suis vraiment très contente. Puis je dois dire aussi, parce qu'en fait, cette entrevue-là va sortir d'ici quelques semaines, mais ça fait, je pense que la dernière entrevue que j'ai faite pour le podcast date du mois de mai, donc j'ai pris une pause durant l'été, fait que t'es ma première personne depuis ma pause, donc voilà, fait que ça se peut que je sois un petit peu rouillée, mais je pense que ça devrait aller, et donc voilà, puis je suis vraiment très contente aussi parce qu'on parle d'un thème que je n'avais pas abordé encore sur mes plateformes, je pense, et il y a plusieurs personnes qui me partagent ça en fait, puis je vois ça passer, ce fameux syndrome-là, et ben, j'ai le goût qu'on en parle vraiment plus, puis qu'on comprenne de façon simple aussi ce que c'est, même si c'est loin d'être simple.
Exact.
Mais avant de plonger là-dedans, j'aimerais que tu nous parles un peu de qui tu es, de ce que tu fais dans la vie et surtout de ce que tu fais pour le plaisir.
Pour le plaisir, OK. Bon, ben écoute, moi, dans la vie, je te dirais que mes activités principales sont professionnelles. donc, étant naturopathe agréée, je rencontre principalement des femmes. Je m'occupe de l'équilibre et l'harmonie hormonale des femmes. Donc, j'ai énormément de femmes qui viennent me voir pour des enjeux menstruels, des enjeux de fertilité, des couples qui viennent me rencontrer pour des enjeux de fertilité. Puis quand on baigne dans ce monde-là, ben on va rencontrer autant des enjeux associés justement à des problèmes d'ovulation, de syndrome des ovaires polykystiques, d'aménorrhée hypothalamique, d'endométriose, ou bien simplement aussi du côté de la fertilité, des diagnostics d'infertilité inexpliquée qui sont bien embêtants pour les couples qui en souffrent parce qu'on n'a aucune idée de, en fait, du côté médical, là, les réponses sont insuffisantes pour pouvoir expliquer et pouvoir adresser la situation. Donc, l'approche naturopathique se veut une approche qui adresse les habitudes de vie en premier lieu, et ensuite de ça, nos outils de travail peuvent toucher la supplémentation, l'usage des plantes médicinales, des huiles essentielles, pour venir adresser les causes profondes des déséquilibres. Puis quand on plonge là-dedans, ben c'est un peu un rabbit hole aussi.
Oui, absolument. Oh mon Dieu! C'est un monde complexe et très, très complet aussi. Puis à part ça, sinon, au-delà de ce que tu fais clairement, le plus clair de ton temps, il y a sûrement des choses qui te font plaisir aussi, tu sais.
Ah ouais, vraiment. Je retrouve ça, je te dirais, Marie-Pierre, un peu là, le besoin d'avoir du temps pour moi, puis d'avoir des activités qui me font vraiment, vraiment plaisir. J'ai été extrêmement prise d'un point de vue développement de ma pratique et de ma clientèle dans les dernières années. Puis là, ben, j'ai un fort appel en moi là, qui me ramène à ce que j'aime faire pour le plaisir. Donc, principalement, en ce moment, ce que j'arrive à intégrer sur une base plus hebdomadaire, c'est le retour à l'activité physique. Moi, j'aime beaucoup les arts martiaux et je m'entraîne en kickboxing, Muay Thai, et j'adore ça. Ça vient comme m'aider à me libérer d'une certaine pression, d'une certaine intensité qui m'habite. Et que je ne peux pas nécessairement exprimer dans une pratique en visioconférence. Là, j'ai pas un métier très intense de ce côté-là. Fait que terminer une journée remplie de consultations par une séance comme ça me fait un bien fou. La cuisine, hein, au début, les gens se sont abonnés à mes plateformes parce que je partageais quand même beaucoup de recettes santé puis de recettes gourmandes. Donc, tu sais, ça demeure. Puis dans mes projets à, je te dirais, court moyen terme, c'est de retrouver la musique. Là, ça m'appelle vraiment beaucoup.
Ah
ouais? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai étudié en chant jazz au cégep avant de m'orienter vers la santé. Donc, et je me suis retrouvée vraiment très limitée dans ma capacité de chanter quand j'habitais à Montréal, dans les appartements, avec les murs en carton, tout ça. Je me sentais pas à l'aise, tu sais. Et là, en juin dernier, on a emménagé dans une maison avec toute l'intimité que ça apporte. Et là, ça me fait du bien de vraiment sortir ma voix et je vais bientôt retrouver mon piano aussi. Donc, ça, c'est des choses qui me rendent vraiment, vraiment heureuse. Fait que pour l'instant, c'est ça.
Ah, oh, wow! Merci!
Jardiner aussi.
Ouais.
J'ai maintenant un jardin, donc arracher des mauvaises herbes ou les conserver. Ouais, grand plaisir là-dedans. Ouais.
Oh, wow! J'adore que tu nous partages ça. Puis, en fait, tu vois, tu sais, moi, je pense que je t'ai suivi en ligne à partir du... En fait, quand on a fait le MOOC de Clonity, je pense que c'est là que je t'ai rencontré, je crois.
Je pense que oui.
Oui, puis ensuite, il y a eu le sommet de la souveraineté menstruelle et hormonale. Puis, mais tu vois, je n'étais pas consciente que tu partageais aussi de la bouffe. Puis j'ai comme vraiment le goût d'aller voir plus loin là, dans tes posts pour aller voir ça. Puis je trouve ça vraiment le fun. Et est-ce que tu trouves que qu'en fait, ce que tu partages, ça fait le lien de façon concrète avec ce que tu enseignes aux gens, tu sais, dans le sens que si la bouffe fait vraiment partie de tes enseignements, est-ce que c'est quelque chose qui est encore présent, tu sais, pour toi?
Écoute, c'est sûr que c'est central. J'aborde pas l'alimentation de la même façon que je le faisais avant, je te dirais. Là, j'ai plus dans ma pratique, j'ai plus une approche d'optimisation de l'assiette de façon très positive, de façon à promouvoir l'équilibre. Je te dirais qu'au début, il y avait comme un petit peu plus de rigueur, puis d'une approche dichotomique de l'alimentation là, quand j'ai commencé à travailler là, donc le bon puis le pas bon. Puis ça, j'essaie de me détacher le plus possible de ça. J'utilise encore pas mal, ben, certaines des recettes que j'ai publiées sur mon site web, ben, sur mon blog qui est devenu maintenant plus un site web. Je les utilise dans ma pratique pour donner des idées à mes clientes, bien entendu. Ça, c'est toujours, toujours pratique.
Génial.
Mais c'est ça, là, d'un point de vue création de contenu, création de recettes, ça me prendrait un double
Ah ben oui, hein,
pour
c'est
s'occuper
sûr.
de ça.
J'imagine, tu sais, parce qu'il y a des gens près de moi, tu sais, qui font ça dans leur vie, genre à temps plein. Puis je me dis, mais ça prend tellement de temps. Puis je pense qu'on voit pas tout,
Non.
tu sais, tout le temps que ça prend. Tu sais, puis vraiment, fait que, ben écoute, c'est sûr que je vais mettre le lien vers ton site slash blog
Oui.
pour que les gens aillent voir ça. Puis en fait, j'ai le goût d'aller comme vraiment voir aussi parce que c'est ça, en fait, je trouve que. Puis écoute, t'sais, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que souvent, on a comme tendance à voir la bouffe comme étant bonne ou moins bonne, là, tu sais. Puis
Ouais.
souvent, tu sais, ce qu'on mange, c'est très genre blanc, noir.
Ouais.
Puis moi, ben, j'essaie vraiment aussi de me dire qu'il n'y a pas de bonnes choses et de moins bonnes choses. Tu sais, le but, c'est que tu manges ce qui te fait du bien. C'est sûr qu'il y a des choses qui t'amènent plus de bienfaits pour ton corps, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui t'amènent aussi, je dirais, une espèce de bienfait pour ton cerveau puis pour ton cœur. Et ça, je pense qu'il faut mettre ça aussi dans la liste de choses qu'on mange parce que si on enlève tout ce qui nous fait, tu sais, tout ce qui est plaisir, c'est sûr que ça, c'est ça, ça devient un enjeu assez difficile et, tu sais, moi, je pense qu'il faut qu'on mange pour le plaisir aussi, là,
C'est ça.
vraiment.
S'il n'y a pas de plaisir, c'est pas viable. Donc, quand on
Exact, ben
entre
c'est ça.
dans le cycle des diètes ultra restrictives ou quand on se met à suivre des dogmes ultra stricts dans l'alimentation, ça devient extrêmement restrictif. On développe de la rigidité, de la culpabilité aussi. Puis, il n'y a rien de positif là-dedans. Puis moi, je vais te le dire, c'est quand même un struggle dans ma pratique, là, on s'entend, parce que, bon, par exemple, quand on regarde au niveau de l'équilibre hormonal, on a des données assez, d'un point de vue scientifique, on a des données assez claires sur, par exemple, l'impact de la présence des produits laitiers sur l'équilibre hormonal, tant au niveau inflammatoire, tant au niveau aussi sur la résistance à l'insuline, qui peut influencer même les niveaux de testostérone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui touche justement le sujet du jour qui est le SOPK, mais quand on dans la pratique, dans le quotidien de ces femmes-là, tu sais, passer d'une alimentation X à plus du tout de produits laitiers, ben des fois il y a des sentiments de restriction qui sont
C'est
importants puis qui
sûr.
créent plus de stress.
Absolument.
Fait que tu sais, quand on passe de la science à la pratique puis à l'alimentation quotidienne, il y a toujours toujours des clashs. Puis c'est de trouver l'espèce d'équilibre là-dedans, parce que d'un point de vue métabolique, il y a des corrections à apporter, puis il faut qu'on passe par l'alimentation et les habitudes de vie, mais
Ben oui,
comment ça se
exact.
fait, tu sais? Comment on applique ça, puis avec quel mindset on applique ça? C'est pas simple, puis la perfection n'existe jamais, puis on
Non,
ne veut
c'est
pas
sûr.
viser la perfection non plus. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là entre le plaisir puis les habitudes qui font leur place dans notre assiette le plus souvent possible, tout en ayant une certaine flexibilité.
Oui, puis ce que tu dis, ça me touche vraiment beaucoup parce que je trouve que ça s'applique dans toutes les sphères de nos vies. Puis c'est pas juste pas juste avec ce qu'on mange. Donc, merci pour ce rappel-là. Je pense que c'est très important. Et ouais. Avant qu'on plonge dans notre thème principal, en fait, ce pourquoi tu es là, j'aimerais juste qu'on fasse un petit disclaimer, tu sais, juste parce qu'on a parlé plus tôt, puis je pense que c'est important de le faire, tu sais, puis je le dis souvent, tu sais, évidemment, cet épisode-ci ne se substitue pas à aucun conseil qui viendrait soit d'un médecin, soit d'une infirmière, bref, c'est très, très important que si vous avez des symptômes, si vous avez besoin de soins, s'il vous plaît, consultez un ou une professionnelle de la santé, très, très important. Mais sachez que les conseils que tu nous donnes sont aussi très importants, mais font partie d'une approche un peu plus globale.
Intégrative, oui.
Intégrative, exactement. Fait que je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu voulais ajouter à ce niveau-là ou si c'était clair.
Non, ça me semble bien clair. C'est
merveilleux.
Oui.
Parfait. Et donc, j'aimerais ça qu'on enchaîne, en fait, que tu nous parles un peu de ce fameux syndrome-là. J'ai découvert il y a seulement quelques années, en fait, je trouve que c'est pas quelque chose dont on parle vraiment beaucoup. Et les gens qui vivent avec, souvent, manquent d'informations. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais ça que tu nous expliques, en fait, de façon très, très simple, pour qu'on comprenne ce que ça veut dire et ce que ça cause aussi sur notre corps.
Bien sûr, oui, avec plaisir. Alors, ben, comme tu viens de le dire, c'est quelque chose, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un syndrome. Donc, ça veut dire que ça affecte tout notre corps, ça affecte tout notre métabolisme. Il va avoir des conséquences sur la santé mentale, il va y avoir des conséquences métaboliques, hormonales, sur la fertilité. Et aussi les manifestations sont extrêmement vastes. Les manifestations de ce syndrome-là vont toucher la chevelure, la peau. Bon, on va en parler tantôt. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, dans un contexte où c'est encore nouveau qu'on s'intéresse au PCOS. PCOS, c'est en anglais, là. J'ai cette habitude-là, là, désolée. Ça touche quand même, selon la littérature, 6 à 25% des femmes. Donc, tu sais, quand il y a une grande... Il y a un gros gap. Donc, il y a énormément, il y a beaucoup de femmes qui tombent malheureusement dans la craque là, de l'absence de diagnostic malgré la présence de symptômes. C'est aussi causé par le fait qu'il y a une grande, grande variabilité dans la symptomatique. On peut avoir des femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques avec une plus faible intensité des symptômes, un plus faible impact sur leur qualité de vie et d'autres qui vont exprimer de plus forts symptômes. C'est aussi un syndrome qui peut être très longtemps masqué par exemple, la prise de la pilule contraceptive. Mais on considère quand même que c'est le déséquilibre, le premier déséquilibre, en fait, le déséquilibre le plus fréquent chez les femmes. Donc, qui vient même avant l'endométriose et tout ça. Mais en même temps, toutes ces maladies-là manquent cruellement de... Il y a tellement de délais au niveau des diagnostics. Je pense qu'on n'a juste pas les bons... les chiffres qui sont vraiment adéquats à l'heure actuelle.
Clairement. Ouais. Oui, absolument.
Alors, c'est ça. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, il y a beaucoup aussi d'experts qui critiquent son nom, puisque le nom en soi fait référence à des ovaires qui vont présenter justement un certain type de kyste qui seront nombreux, qui seront perlés. Alors qu'en bout de ligne, c'est un critère diagnostique qui est assez controversé, qui n'est pas nécessairement accepté par tous. Donc, moi, j'ai rencontré dans ma pratique un bon nombre de femmes qui ont reçu un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, puisqu'à l'échographie, on a observé des kystes aux ovaires. Mais qui, en bout de ligne, ne souffrent pas nécessairement des autres symptômes qui sont des autres mécanismes qui sont associés à ça. Donc, il faut donc c'est quelque chose aussi qui doit toujours être combiné à le diagnostic du SOPK doit toujours démontrer au moins deux des trois critères de base, donc l'oligo ou l'aménorrhée, c'est-à-dire des cycles longs. Il y a beaucoup de confusion par rapport à qu'est-ce qu'un cycle long. Des fois, j'ai des femmes qui sont à 31 jours, puis elles me disent « Non, j'ai un cycle long, Marie-Gilles. » Un cycle long, à partir de 35 jours, c'est considéré long. Donc, si on est entre 24 et 35, on est considéré comme dans un cycle qui a une durée régulière,
ouais,
normale.
C'est dans ça. Un sens, oui.
Exact. Donc, l'aménorrhée, bon, ça fait référence à l'absence des règles. Donc, les femmes souffrant de syndrome des ovaires polykystiques peuvent avoir des très longs cycles, peuvent avoir quelques menstruations par année ou bien pas du tout de menstruation. Donc, ça, c'est un critère clé. Et l'autre critère qui est très important et qui va comme duquel va découler presque toute la symptomatique du syndrome des ovaires polykystiques, c'est l'hyperandrogénie. Ça, c'est les hormones mâles. Donc, ça va être la DHEA. S et la DHEA provenant des surrénales et aussi la testostérone. Donc, ce sont des femmes qui vont exprimer des caractéristiques plus androgéniques, ce qui va expliquer justement l'expression de certains symptômes comme l'hirsutisme, c'est-à-dire l'apparition de poils sur le menton, sur le visage, sur le corps, autour des parties génitales. L'acné aussi, qui peut être très, très invalidant, qui peut être très inflammatoire, kystique, difficile à éliminer. Et la perte de cheveux, qui va surtout sur le front, donc sur le dessus du crâne, puis aussi une tendance à avoir une production de sébum plus importante, tant au niveau du cuir chevelu qu'au niveau du visage. Donc ça, c'est des manifestations classiques d'hyperandrogénie. Voilà, donc, en gros, le syndrome des ovaires polykystiques va amener justement l'absence de règles, des symptômes très, très, très embêtants d'hyperandrogénie. Et souvent va être associé à ça, mais c'est pas tout le temps, des enjeux métaboliques. Des enjeux métaboliques comme, par exemple, une résistance à l'insuline.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on entend souvent, en fait, là, en lien avec ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends le plus souvent, là, en fait.
Ouais, il y a beaucoup... Mais tu sais, de plus en plus de chercheurs vont mettre l'élément résistance à l'insuline comme un élément... facultatif. Donc, on ne l'observe pas chez toutes les femmes. Mais c'est vrai que la littérature ou bien même la publicité, les médias qui s'intéressent à ça vont mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur la résistance à l'insuline. Et donc, cette résistance à l'insuline-là ou bien cette hyperinsulinémie-là va pousser l'hyperandrogénie, donc l'insuline va venir avoir un effet d'amplification sur la production de testostérone, et donc là, ben, ça devient cercle vicieux.
Oui, je comprends ce que tu veux dire.
C'est ça. Donc, la résistance à l'insuline, on a tout l'aspect métabolique, donc la gestion du glucose, mais des fois, c'est échappé parce que souvent, les femmes vont se faire tester uniquement le glucose à jeun, puis l'hémoglobine glyquée, mais il faut demander aussi l'insuline à jeun pour voir, même si tes taux de glucose sont normaux, est-ce que ton insuline à jeun est élevée aussi? Et ça, c'est pas quelque chose que je vois très souvent dans les tests.
Oui, je comprends. Puis, tu as parlé, en fait, du fait aussi que les cycles peuvent être très longs et que les menstruations sont absentes parfois. Mm-hmm. Et donc, évidemment, si vous nous écoutez, ben, en fait, si vous écoutez les épisodes depuis un petit bout, vous avez sûrement compris que, en fait, que les menstruations sont liées justement à l'ovulation. Et donc, s'il n'y a pas ça, ça fait en sorte que la fertilité est impactée. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est très, très... comment dire? Qui peut jouer sur la santé mentale aussi des gens. Fait que je sais pas si toi, tu le vois dans ta pratique, mais moi, il y a tellement de personnes qui me partagent ça puis qui trouvent ça difficile parce qu'évidemment, ça est un enjeu très, très complexe. Ouais. Et donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce thème-là. Ouais.
Ben, il y a plein d'éléments qui entrent en jeu là-dedans au niveau de la santé mentale. Tu sais, je vais adresser l'aspect fertilité après, là, mais tu sais, d'un point de vue strictement hormonal, comme tu viens de le dire, les femmes souffrant du syndrome des ovaires polykystiques n'ovulent pas très souvent. Donc, des fois, elles n'ovulent pas du tout. On peut même avoir des cycles anovulatoires, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir ovulé, mais il y a eu une très, très, très faible activité ovarienne là, donc une très faible production de progestérone. Et peut-être que tu en as déjà parlé dans le podcast, mais la progestérone aussi, c'est vraiment, c'est une hormone qui est extrêmement importante pour l'équilibre nerveux. L'estrogène aussi l'est, donc toute l'équilibre nerveux va dépendre d'un équilibre optimal entre l'estrogène et la testostérone. Donc, de façon classique aussi, ce qu'on va rencontrer au niveau des manifestations de la santé mentale chez ces femmes-là, c'est beaucoup d'irritabilité, beaucoup d'anxiété aussi, tendance à la dépression. Pas juste parce que la condition en soi peut amener ça, mais physiologiquement, d'un point de vue biochimie hormonale, il y a des prédispositions à être plus sensible à en souffrir. Après, ben, toutes les conséquences du syndrome, évidemment, les enjeux de fertilité que ces femmes-là expérimentent, on va se le dire, le manque de compréhension aussi, puis d'empathie qu'elles vont souvent rencontrer dans leur accompagnement médical. Mais aussi, quelque chose que je tenais vraiment à aborder aujourd'hui, c'est aussi le fait que c'est souvent une population de femmes qui vont subir énormément de grossophobie médicale et qui vont souvent se faire réduire leur traitement à perdre du poids, puis tu vas t'en ovuler ou être complètement dismissed par leur médecin, en disant « prends la pilule, puis ça va être correct, puis reviens me voir quand tu voudras être enceinte, tu sais. » Exact, mais...
Ça fonctionne pas comme ça, mais oui.
Puis que moi, je rencontre tellement de femmes qui ont vécu ça, puis ça me touche énormément, puis même quand on fait des recherches pour dire « je viens d'avoir le diagnostic, qu'est-ce que je peux faire? » Même dans le monde des médias sociaux, même dans le monde des médias alternatifs qui disent voici ce que tu peux faire pour le SOPK, on rentre complètement dans un cercle vicieux de culture de la diète, où ce qu'il faut arrêter tout, puis faut plus que tu manges de glucose, puis plus de carbs, faut que tu manges high fat, low fat, high protein, low protein.
Mon Dieu, c'est parce que là, c'est ça.
Tu sais, imagine tout le stress. C'est ça, puis ça nous amène à dire il y a quelque chose qui est... En fait, ça amène ces femmes-là à se dire, si j'ai ce syndrome-là, c'est de ma faute. Et c'est parce que je fais ça de pas correct. Donc, il y a énormément... C'est très culpabilisant. Puis, quand on fait des recherches là-dessus, on se rend compte que oui, c'est sûr que le lifestyle, les habitudes de vie influencent le développement du syndrome des ovaires polykystiques. Mais la recherche s'intéresse de plus en plus à l'aspect génétique aussi des ovaires du développement des ovaires polykystiques. Et plus ça va, plus on comprend qu'il y a énormément de prédispositions à cet égard-là. Donc, c'est un message que je voulais envoyer justement pour notre histoire aujourd'hui. La présence de ce syndrome-là chez vous n'est pas uniquement due à ce que vous faites de pas correct ou ce que vous faites de correct et que ça marche pas. Il y a vraiment quelque chose de génétique là-dedans. Des études in utero ont été faites et ont observé que l'exposition in utero au BPA, au phtalate, donc tous des perturbateurs endocriniens, lorsque la maman enceinte est exposée à ces matières-là, ça vient ajouter justement ça vient augmenter les prédispositions à développer le profil lorsque la femme enceinte est exposée aussi à plus d'androgènes, ça peut augmenter les risques que la progéniture le soit aussi. Après, donc, il y a tout un contexte d'exposition chimique qui va venir augmenter des prédispositions. Puis ça, je trouve ça super important. Puis il faut se le rappeler, là, donc, que tout n'est pas lié à la tranche de pain que tu as mangée hier,
non.
Puis le dessert que tu as pris. Là,
ah mon Dieu, mais non, mais oui, absolument. Mm-hmm. Je comprends ce que tu veux dire. Puis au-delà de ça, mettons, si on va dans... OK. Là, mettons qu'il y a quelqu'un qui est là, puis qui nous entend, puis qui dit « OK, parfait, je comprends ça ». Mais est-ce qu'il y a des petits gestes quand même concrets que je peux faire qui peuvent m'aider ou en tout cas du moins qui peuvent apaiser un peu ce que je vis, tu sais? Est-ce qu'il y a des choses que tu conseillerais aux gens un peu d'essayer ou en tout cas du moins d'être à l'affût, tu sais, peu importe.
Ouais, mais tu sais, même si ça nous ramène vraiment à oui, nos habitudes de vie, tu sais, c'est sûr. Comme je disais, il peut y avoir des raisons génétiques, environnementales, habitudes de vie qui font en sorte que l'ovulation est plus difficile, puis que le manque de progestérone et aussi l'hyperandrogénie et aussi tout ce qu'on a dit auparavant là crée cette espèce de perfect storm, j'ai envie de dire là.
Oui, je comprends.
C'est ça. Mais il reste que dans ce que l'on peut faire, ça touche notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc, il y a beaucoup d'éducation là-dessus. Là, tu sais, si on fait une petite recherche, tu en as certainement déjà parlé aussi. Donc, réduire notre exposition aux perturbateurs endocriniens en limitant, en fait, en bannissant carrément le plastique de notre environnement le plus possible, en regardant aussi nos cosmétiques pour limiter et éliminer complètement les phtalates. Donc ça, une fois qu'on a comme terminé nos sacs ou nos boîtes nos bouteilles de cosmétiques, nos bouteilles de nettoyants ménagers, ben on peut faire des meilleurs choix puis prendre l'habitude justement d'utiliser ces produits-là sans phtalates, sans BPA. Mm-hmm. Puis même le plastique sans BPA, hein, c'est à éviter. Donc ça, c'est quelque chose qui peut s'installer progressivement puis qui va...
Oui, évidemment.
Faire une différence, c'est sûr qu'on là, on parle du long terme, là, mais c'est quelque chose qui est extrêmement significatif. Si vous faites une recherche sur PubMed, le BPA et PCOS, là, vous allez voir, ça sort, puis c'est très, très reconnu. Ensuite de ça, d'un point de vue alimentation, tout dépend, je te dirais que tout dépend du profil, du type de PCOS qui est vécu. Donc,
tu as peut-être...
J'allais
juste dire qu'on n'a pas parlé de ça parce qu'on n'est pas entré dans vraiment toutes les informations parce qu'on ne souhaite pas vous perdre à travers ça. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller lire là-dessus. Mais oui, donc je te laisse ça.
Oui, les différents types de PCOS, lire là-dessus, là, quelque chose de facile, d'accessible, c'est les articles de blog de Lara Bridin qui sont vraiment simples à comprendre. Donc, elle va mettre les quatre types de PCOS. Mais bon, ça dépend. Mais en général, on va proposer le jeûne intermittent, sauter des repas, l'exercice physique intense, tout ça, pour que les femmes perdent du poids, puis ça fonctionne pas avec les femmes, tout ça.
Mais non.
Vraiment pas. Exact, non. Donc, la première chose que je m'assure quand une femme vient me voir avec ces enjeux-là, c'est qu'elle ait un mode de vie routinier, autant au niveau du sommeil, autant au niveau de sa routine alimentaire. Donc, cette femme-là doit absolument s'assurer d'avoir un petit déjeuner nutritif, bien équilibré, riche en protéines, riche en bons gras, dans l'heure qui suit son lever. Donc, les cafés à jeun, aller s'entraîner à jeun le matin, se lever puis se plugger au télétravail à l'ordinateur en buvant son café, prendre son petit déjeuner à 11 heures, vont créer une charge de stress importante et qui risque d'avoir un impact sur leur sécrétion de cortisol et l'hypercortisolémie va avoir un effet d'élévation, va avoir un effet hyperandrogénique et aussi va y avoir des enjeux au niveau de l'insuline. Donc, les femmes ne sont pas des petits hommes. Donc, toute la science qui sort sur le jeûne intermittent et toutes ces affaires-là vont souvent révéler des beaux résultats sur le métabolisme et sur celui des hommes. Donc, on doit vraiment se détacher de ça. Donc, ça, c'est la première chose. Puis déjà ça, là, si tu savais le nombre de femmes que je rencontre à toutes les semaines qui ont ce pattern de petit déjeuner-là, ou de non-petit déjeuner-là, là, c'est... Puis depuis qu'on a justement parlé de l'aspect miraculeux du jeûne intermittent, là, ça ne lâche pas.
Mais
C'est
je comprends.
quelque
Puis
chose.
c'est en fait que je trouve complexe parce que, comme tu dis, souvent ce qu'on lit, ça s'applique aux hommes parce que ça a été en fait, il y a des tests qui ont été faits sur le corps des hommes. Mais tu peux pas juste prendre ces infos-là puis te dire, ah, ben, OK, ben, ça marche pour moi aussi. Mais non, mais c'est parce qu'on a pas les mêmes hormones, on n'a pas le même. T'sais, tout ça change vraiment beaucoup. Donc, je pense qu'il faut être. Très à l'affût de ce qu'on lit par rapport à ça, puis vraiment être certaine qu'il y a des tests qui ont été faits sur le corps des femmes aussi,
Exact.
parce que comme tu dis, ça s'applique pas ou en tout cas du moins pas dans la même t'sais, pas dans la même forme là, par exemple. Ouais.
C'est ça. T'sais, puis je lisais un article super intéressant qui a été publié en 2021, qui justement étudie l'aspect hyperandrogénie, résistance à l'insuline dans le contexte de SOPK. Et puis, laisse-moi juste retrouver l'information, là, je vais pas le trouver juste pour faire. Mais tu sais, dans le fond, grosso modo, ce qui est indiqué, c'est que certaines diètes ont été testées chez les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, une diète faible en protéines et plus riche en gras, ou une diète hyperprotéinée. Puis overall, il n'y a pas une de ces diètes-là qui a fait vraiment la grande différence. C'est sûr que les résultats qui sont ressortis de cette étude-là, c'est quand il y avait une perte de poids d'environ 5 à 10 %, peu importe le type d'approche alimentaire qui
Mais
avait été
c'est
abordée,
ça, c'est
ça
pas.
venait améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc, c'est pas non plus une perte de poids très importante. Puis je suis
Non,
en
c'est
train de
ça.
dire non plus que j'encourage ça chez toutes mes clientes. Mais c'est sûr que la présence de tissu adipeux peut avoir un effet amplificateur, tant au niveau du déséquilibre testostérone-estrogène qu'au niveau de l'insuline. Donc, il faut qu'on aborde ça de façon saine aussi. En général, quand les habitudes alimentaires sont optimisées d'un point de vue, on équilibre tout ça, donc il y a pas, on retire rien, mais on balance tout ça, on s'assure qu'il y a énormément de fruits et légumes, d'antioxydants, de
Des
bons
plantes,
gras dans
ouais, c'est
l'assiette.
ça, exact.
En général, tu sais, ça s'équilibre bien, puis la perte de poids se fait
Naturellement.
progressivement, lentement, sans stresser le corps. Le corps se sent, moi je dis souvent, je dis toujours à mes clientes, il faut que ton corps se sente assez en sécurité pour pouvoir relâcher.
C'est beau ça.
Ouais, parce que toutes les diètes restrictives qu'on va suggérer aux femmes qui souffrent de SOPK, l'exercice physique excessif, super intense de cardio, ça met le corps en état de stress.
Ah,
Puis
c'est sûr, absolument.
c'est ça. Puis cet état de stress-là nous fait retenir plus, accumuler plus. Et donc, il n'y a aucune façon d'engager une perte de poids saine dans ce contexte-là, là. Ouais.
Merci de préciser ça parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui vont faire comme un Ah, oh, OK, parfait. Tu sais, ça fait du bien d'entendre ça parce que, comme tu dis, j'ai l'impression que souvent ce que je lis sur le syndrome, c'est souvent des diètes, c'est souvent OK, ben là, faut pas que tu manges de sucre, faut pas que tu manges de ci, ça.
Non.
Puis je suis comme, mais ça fonctionne pas, t'sais, sur le long terme, là, je veux dire, c'est pas fait pour ça. Donc, je pense que avec ce qu'on. En tout cas, du moins, si je peux. T'sais, si on peut faire le lien avec ce que tu dis, je pense que de suivre le guide. En fait, le guide alimentaire, là, le dernier qui est sorti il y a quelques années, je pense que ça peut être un bon début, là. T'sais, je pense que
J'aime
rendu là,
bien
ça peut
cette image-là. Ouais, c'est ça.
être.
Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même certaines forces, effectivement. Donc si déjà, tu sais, quand tu regardes l'image en question de l'assiette optimale selon le guide alimentaire, puis
Ouais,
que tu dis
exact.
ouais, je suis rarement dans ces ratios-là, ben faire une transition progressive vers cette assiette-là, ça va être un
Je
très
pense que
très
ça
très
peut être
bon
bien.
début. Ouais, c'est ça. Donc, éviter de sauter les repas. Comme je disais tantôt, la routine, c'est super, super important. Ça sécurise l'organisme et donc moins, plus de sécurité, plus de capacité justement à apaiser le corps, apaiser la réponse au stress, favoriser l'ovulation.
Oui, puis je pense que ce qu'on entend vraiment, vraiment beaucoup, c'est le stress qui joue énormément. Donc, tout ce qu'on peut faire pour que notre stress soit plus bas, pour que ça nous apaise, je pense que c'est vraiment ça la clé, en fait, de ce que j'entends, de ce que tu partages.
Ah ouais, vraiment. Mm-hmm. Vraiment, parce que, tu sais, dans les différents types de PCOS, il y en a qui... Il y a certaines femmes qui sont pas du tout en surpoids, qui sont pas du tout... même, tu sais, au niveau de la résistance à l'insuline, c'est pas nécessairement si significatif que ça, mais elles vont quand même avoir un profil avec hyperandrogénie, puis oligo ou aménorrhée. En fait, ce qu'on comprend de ces cas-là, c'est que ça peut vraiment venir aussi d'une source surrénalienne, donc soit un élément, un excès de DHEA, qui est un androgène produit par les surrénales, ou de cortisol. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, avec ce profil-là, ben, on va vraiment, vraiment, vraiment prioriser toutes les pratiques qui peuvent améliorer la gestion du stress, beaucoup plus l'aspect métabolique de la chose, là. Ouais, donc améliorer la gestion du stress et promouvoir l'ovulation. Donc, évidemment, avec moi, ce que j'observe en clinique, c'est que la gestion du stress, même si on le sait que c'est important, ça passe toujours droit. Parce qu'on a tendance à utiliser les outils de gestion du stress de façon réactive. Quand on est très, très stressé, là, je vais aller méditer, ça va me faire du bien. Là, je vais aller faire ci, ça va me faire du bien.
C'est ça, mais il y a pas plus tard, tu sais, c'est comme dur de se ramener. Mais si on est dans la proaction, c'est là que ça change. Exact, oui.
Exact. Fait que la proaction, ça veut dire un petit peu de temps à tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être long, mais quand c'est fréquent, une petite pratique de cohérence cardiaque, par exemple 5 minutes par jour, peut faire une belle différence. Absolument. C'est sûr que ces petits outils-là, on regarde à des effets moyens, mais peut-être un peu plus long terme. Ils ne vont pas nécessairement avoir un effet significatif sur ton ovulation dans les prochaines 3 semaines. Donc, il faut que tu leur donnes le temps de s'implanter. Donc, c'est ça. Fait que, à usage prévoyant, préventif, proactif de tes outils de gestion de stress vont venir avoir un effet cumulatif sur toutes les autres choses que tu vas appliquer aussi pour retrouver ton ovulation.
J'adore ça.
Ouais.
Je sais pas s'il y a autre chose que tu voulais partager avec ça, parce que je trouve que c'est des excellentes pistes, en fait, puis je trouve que ça s'applique pas seulement aux personnes qui vivent avec le syndrome, mais aussi à toutes les personnes qui nous écoutent et qui disent « Ah, ben écoute, j'aimerais juste prendre soin de mon corps, de ma tête, de mes hormones. » Ben, définitivement que ça s'applique aussi à vous, là, tu sais.
Clairement.
Vraiment.
C'est sûr, c'est la base, tu sais. Je veux dire que certaines femmes développent le syndrome des ovaires polykystiques, comme je te disais tantôt. Il y a vraiment une composante génétique à ça. On arrive avec une situation ou bien des prédispositions qui vont faire en sorte que tous les éléments de notre environnement, notre hygiène de vie qui vont affecter nos hormones vont se développer ou vont affecter de façon plus importante notre équilibre hormonal vers l'hyperandrogénie, vers l'aménorrhée ou l'oligoménorrhée et vers une possible résistance à l'insuline. Donc, c'est juste... Alors que chez une autre personne, ça peut se développer ou s'exprimer différemment, le même contexte. Absolument. Donc, overall, l'hygiène de vie qui protège notre sommeil aussi, donc s'assurer d'avoir un rythme dans notre cycle circadien, c'est un autre élément. On a observé chez les femmes souffrant de PCOS qui avaient tendance à avoir plus de cortisol, un cortisol plus élevé en soirée, puis des faibles niveaux de cortisol le matin. Fait que c'est un peu comme si ces femmes-là étaient tout le temps sur un jet lag. On a de l'énergie le soir, puis on n'arrive pas à s'extirper du soleil le matin, du sommeil le matin, je veux dire.
Oui, je comprends. C'est génial. Merci de nous partager tout ça. Je pense que ça fait vraiment un en fait, ça met bien la table, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent puis qui auraient le goût de, de, ben, de prendre action, tu sais, parce que souvent, mm-hmm. on se dit, OK, je ne sais pas trop quoi faire, mais là, je trouve que c'est des pistes vraiment très, très claires. Mm-hmm. Et donc, pour conclure cet épisode, j'aimerais te demander, en fait, ce qui s'en vient pour toi. Tu nous as parlé un peu tantôt de ce que tu avais le goût de mettre en place pour le plaisir dans ta mm-hmm. vie, mais je voulais savoir mm-hmm. s'il y avait d'autres aussi, d'autres projets sur lesquels tu planches présentement et dans les prochaines semaines, prochains mois.
Écoute, Marie-Pierre, les projets, là, j'en ai plein la tête, mais pour l'instant, vraiment, mon temps est vraiment complètement destiné à ma pratique en privé, mm-hmm. ma pratique naturopathique. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment pour moi, donc j'aimerais avoir d'autres choses à dire, mais c'est ça, je m'occupe de ma clientèle, je m'occupe des gens, des couples qui viennent vers moi, des femmes qui viennent vers moi pour avoir un accompagnement naturopathique. Mm-hmm. Et ben c'est ça, donc si vous avez envie d'en savoir plus sur mes services, quelque chose qui est le fun à savoir, c'est que mm-hmm. j'offre toujours de façon gratuite un appel découverte de 15 minutes. Personnellement, moi, j'aime vraiment ça, avoir ce temps-là pour discuter avec des personnes qui sont intéressées à mes services et voir si ça peut être bon fit, si je suis la bonne personne pour elles. Exactement. Et aussi clarifier les attentes et ce que ça veut dire travailler avec moi. Oui. Alors, il y a ça. Donc, si vous allez sur mariegillepelletier.com, vous allez avoir un beau petit bouton là, qui vous amène vers la prise de rendez-vous pour l'appel découverte.
Absolument. Je vais mettre les liens dans la barre d'infos. Et aussi, j'ai vu sur ton mm-hmm. site que tu as un guide vraiment génial. Là. Je suis là présentement.
C'est là-dessus?
Sur ton mm-hmm. site web. Oui. Puis en fait, c'est ça, il y a un petit guide gratuit qu'on peut télécharger facilement. Ouais. En fait, c'est ton cycle et ton cinquième cycle vital. Donc, en fait, je pense que ça regroupe un peu ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Oui. Puis des conseils vraiment très cool, là, parce que ton guide, je l'ai vu. Puis je trouve ça vraiment très bien. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre aussi le lien vers ça dans la barre d'informations. Et mm-hmm. je sais que tu es sur Instagram aussi. Je sais pas, en fait, si tu, si tu mets un peu d'énergie ou de temps sur cette plateforme-là.
Oh, I wish! Je vous trouve toute très bonne d'être très active, faire tellement de beaux contenus. C'est vraiment... Non, je suis un petit peu passive sur les réseaux, mais en même temps, j'ai toujours des demandes, tu sais, des direct messages qui arrivent de femmes qui sont intéressées, qui ont des questions sur mes services. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc, vous pouvez me contacter directement aussi via Instagram. Mm-hmm. Mais d'un point de vue de création de contenu,
je pense qu'on peut pas tout faire. Faire des choix, c'est aussi très important. Et je trouve mm-hmm. que ça va dans le même sens que ce que tu nous as dit. T'sais, je pense qu'il ne faut pas qu'on switch partout. Et tu sais, on a des enjeux différents, on a des objectifs différents, puis c'est parfait comme ça. Comme tu dis, je pense qu'on se compare souvent. Je pense que c'est le réflexe qu'on a. Par contre, ce qui est bien, c'est de voir, OK, tu sais, puis de se demander ce qui vaut la peine pour nous, tu sais.
Exact.
Vraiment. Mm. Puis le temps qu'on a à mettre aussi là-dessus. Et puis ce qu'on aime, parce que, tu sais, moi, il y a des gens qui me disent, hey, mais j'aimerais donc ça, mettre plus de contenu, mais j'aime pas ça, mais je suis comme, mais c'est correct, mais en pas. Tu sais, c'est comme. Mm-hmm. Ça va, tu sais, genre moi, j'adore ça, tu sais. Mais c'est pas le cas de tous, puis c'est parfait comme ça. Donc, c'était ma petite phrase de la fin. c'est ça, tu sais, juste pour vous dire que c'est correct. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Bon, bref. Donc, voilà. Ben écoute, merci énormément pour ton temps. Merci pour tout ça. Je pense que ça l'a vraiment bien fait le tour sur ce fameux syndrome dont on parle très, très peu. Et puis... très heureuse. Et donc, comme j'ai dit, je vais mettre les liens vers tes plateformes dans la barre d'informations. Et sur ce, ben écoute, je te souhaite un très bel automne qui s'en vient. Puis j'espère que tu vas pouvoir mettre plus de plaisir aussi dans ta vie avec tous les projets que tu nous as partagés plus tôt.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et je suis bien contente là, qu'on ait réussi à finalement se trouver un moment. Et voilà, donc j'espère que vous allez apprécier là, les informations transmises.
Merci beaucoup.
Merci.
Bye bye.